Bill Mollison et David Holmgren, qui en sont les deux cofondateurs, s'appuyaient explicitement sur l'idée de biorégion. L'idée de biorégion, elle est pour eux fondamentale dans l'idée permaculturelle. On n'a pas forcément besoin d'utiliser le mot biorégion quand on fait de la permaculture, mais pour les gens qui ont inventé le terme, ça participait d'une hypothèse biorégionale. Notamment, par exemple, Bill Mollison, un des cofondateurs de la permaculture, qui écrit dans des ouvrages biorégionalistes, et avec même cette idée donc des liens qui existent entre le Congrès international de permaculture et les congrès biorégionaux nord-américains, et avec cette idée, donc il y a eu une invitation à un mariage entre la permaculture et la biorégion, qui date de 1988, avec l'idée qu'on pourrait peut-être se mettre à parler de permarégionalisme. Et pour un peu changer les règles du jeu, parce que sinon on va s'ennuyer, pour créer un peu de diversité dans cette unité, on va pas vraiment faire des binômes. Moi, je voudrais d'abord qu'on écoute parler les personnes qui ont le droit, cet après-midi, de parler 15 minutes, le plus longtemps, parce que ces personnes-là vont nous amener des histoires de vie, des témoignages, des manières de s'ancrer, de s'accrocher vraiment à des problématiques situées. Et ça me paraît essentiel pour commencer la discussion. Je veux bien aussi que chacune et chacun d'entre vous se présente par lui-même et par elle-même. Comme ça m'évite de faire le MC trop longtemps.
Donc bonjour tout le monde. Alors moi c'est Laura Schindler ou Laura Fontenery, ça dépend. J'ai deux identités selon que vous le disiez en italien ou en français. Et je suis chargée de recherche au CNRS. En sociologie de l'environnement. Moi, je fais la rencontre tout de suite de la permaculture comme mouvement parce que par ma propre trajectoire personnelle, je suis très mobile, je circule beaucoup entre l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France et je m'aperçois que dans tous ces contextes nationaux, il y a quelque chose autour de la permaculture, il y a des gens qui s'organisent autour de ce mouvement. Et donc, je m'intéresse tout de suite à la problématique de la circulation et à la problématique des traductions, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'origine, donc à ce foyer australien où donc a lieu la systématisation dans un ouvrage qui est paru en 78 de cette méthode de la permaculture. Donc je m'intéresse à cette situation australienne qui est assez intéressante, mais immédiatement cette situation australienne devient nord-américaine, devient nord-européen. Et via non seulement le réseau du biorégionalisme, mais aussi et surtout le réseau des écovillages, c'est ça la grande, le fort lien entre permaculture et mouvement des écovillages, cette proposition-là commence à circuler partout dans le monde. Aujourd'hui, elle est présente un peu partout dans le monde. Et la chose sur laquelle je m'intéresse plus spécifiquement, c'est les formes de traduction qui sont données de la permaculture, c'est-à-dire que la permaculture est une méthode. Mais est une méthode qui a aussi vocation à se décliner dans chaque contexte sous les formes où elle peut être le plus efficace possible, on peut dire. Il y a quelque chose de la permaculture qui ne veut pas trop figer le sens notamment politique qu'on peut donner à la permaculture, mais c'est plutôt pensé comme un outil qui peut justement aider une approche de la question écologique à partir de la problématique de la subsistance, c'est-à-dire poser la question écologique en cherchant le plus possible de ne pas séparer l'écologie comme problématique économique, on peut dire, et l'écologie comme problématique de notre relation à la nature. C'est ça aussi qui m'intrigue beaucoup de la permaculture, c'est la volonté de ne pas séparer la nécessité d'une forme de décentrage de l'humain dans la manière de concevoir l'écosystème et en même temps reconnaître que l'humain, pour le besoin de subsister, transforme les systèmes et les écosystèmes et qu'il est très important d'intégrer vraiment comme fondament de notre culture la capacité de concevoir nos systèmes de subsistance sous des formes le plus possible écomimétiques, c'est-à-dire en s'inspirant des manières dont on voit fonctionner des écosystèmes capables de durer dans le temps. Et justement donc de aiguiser, on peut dire, cette intelligence de se rendre presque mimétique.
Cette geste correspond à tel animal, mais que vraiment les acteurs, les actrices et toutes les personnes qui étaient intéressées à le faire étaient incités à se renseigner sur les animaux de la biorégion, à aller les observer. rentrer dans les eaux ou à les observer en milieu naturel. Donc forcément, faire cette démarche, de se renseigner sur quel animal habite dans la baie de San Francisco, est-ce que c'est des coyotes, est-ce que c'est des renards argentés, ainsi de suite, et de faire la démarche de se rendre capable de les observer, participe déjà à développer une sensibilité biorégionale et multispécies. C'est un mot qu'on n'a pas employé aujourd'hui, mais je crois que chez ses fondateurs, c'était, même s'il ne formulait pas en ces termes, c'était incontournable. Il y avait un changement de position de la condition animale qui était une partie centrale de leur démarche, et ça les amenait à avoir une extrême précision dans cette incarnation animale. Je dis, Gauthrat, quand je l'ai rencontré, elle était encore capable de nuancer différentes espèces d'oiseaux en fonction de la vitesse de leur patte.
On m'entend là? C'est mieux comme ça. Ok. Alors, pour rendre hommage, justement, par exemple, hier, moi, j'étais chez des amis à Fontainebleau, et je sors comme ça dans la rue, et avec mon chien, Médor. Bon, ils sont pas originaux, ils s'appellent Médor. Mais bon, et je tombe sur quoi? Sur qui? Oui, un sanglier. Donc alors, il y a beaucoup de sangliers. Alors à Fontainebleau, c'est pas très gênant. On y va dans la forêt, on est là pour ça. Mais ça va? Ça va. Très bien. Et mais il se trouve qu'à Marly, vous connaissez tous Marly, ou Montmorency, oui, qui est quand même à 10 km du périph', pas plus, il y a de plus en plus de sangliers. Enfin, c'est très dans une proximité. Et les sangliers sont devenus apparemment un problème. C'est ce qui se passe. Alors, je ne sais pas. On pourrait peut-être trouver des solutions. Alors, je ne sais pas, on pourrait peut-être rentrer en diplomatie avec les sangliers comme en parle Morisot. Hein? Et ça pourrait être une solution, non? Parce que maintenant on est passé d'une portée à deux portées par an, c'est à peu près ça, non? Ceux qui sont au courant, c'est ça? Et on pourrait faire ça?
Ouais, ça c'est une piste possible, après je pense qu'il y a un changement de mentalité qui est à réfléchir aussi. On parlait de métropoles comparables à Berlin, il y a entre 3 et 5 000 sangliers dans l'agglomération.
Carrément.
Ça ne génère pas les mêmes types de tensions qu'à Paris, il y a une réflexion sur le. Sur l'image qu'ils ont aussi qui a à voir.
Oui, alors. prie.
Oui, par exemple, comme il n'y a plus beaucoup de grands prédateurs en France, encore moins au pays de France, bon, qu'est-ce qu'on va faire des chasseurs, en fait sans les grands prédateurs.
Ben oui. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être introduire les prédateurs, les grands prédateurs en Île-de-France. C'est peut-être ça. Mais est-ce que finalement, les prédateurs seraient... Je ne sais pas quel genre de prédateurs. Des ours, des lynx? Ouais. Alors, on pourrait introduire les loups.
Bah, d'ailleurs, Morisot, qu'on citait tout à l'heure, dit bien qu'on peut essayer de rediriger les attaques de loups qui font tant de mal aux troupeaux, moutons, sur les sangliers, ce qui résoudrait le problème.
Ouais. Des prédateurs de loups, on pourrait le réintroduire, mais est-ce que les prédateurs seraient d'accord? C'est ça le problème, hein?
Sinon, il faut au moins laisser tranquille les renards, parce que les renards, un renard adulte peut manger un marcassin, donc c'est toujours ça de pris sur l'espèce.
Carrément. C'est un marcassin?
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
J'ai en effet travaillé sur le goète pendant 6 mois à peu près, et j'ai mené une étude qu'on peut qualifier de biorégionale. En fait, je me suis assez intéressée à la question suivante. Voilà, en quoi le courant de pensée biorégionaliste, il peut nous aider à penser les problématiques auxquelles nos sociétés font face aujourd'hui et à penser des pistes de résolution de ces problématiques-là. En tout cas, cette prolifération de l'algue verte, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène d'eutrophisation. Et ce phénomène d'eutrophisation, c'est un dérèglement du cycle biogéochimique de l'azote. Manifestation à échelle locale d'un déséquilibre qui, lui, est d'ordre global. À quoi est due cette prolifération? Donc aujourd'hui, on le sait, elle est due à un excédent de nutriments azotés. Et donc, par quoi est-ce que circule cet excédent? Quel est l'agent de transport de cet excédent? Et bien, c'est l'eau, justement. Donc, pour penser finalement la problématique de marée verte à l'échelle de la baie de Saint-Brieuc, et bien, en fait, il faut penser à partir des fleuves qui se jettent dans cette baie et qui transportent cet excédent d'azote qui, lui, arrive dans cette baie. Et donc, plus largement que ça, il faut penser à l'échelle de l'ensemble des réseaux hydrographiques, pardon, donc les fleuves et l'ensemble des affluents qui, eux, se jettent dans le fleuve, qui transportent cet excédent d'azote. Donc, finalement, puisque, pardon, un territoire qui est drainé par un fleuve et l'ensemble de ses affluents, c'est ce qu'on appelle un bassin versant, c'est l'entité bassin versant, ben, on voit bien que pour penser cette problématique-là, finalement, il apparaît pertinent de se placer depuis cette échelle, qui est une entité biorégionale. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que donc cet excédent azoté, on sait aujourd'hui qu'il est très 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 majoritairement d'origine agricole. Et donc finalement, penser cette problématique-là, eh ben, c'est penser la manière dont on organise notre subsistance à l'échelle des bassins versants.
On travaille sur les questions biorégionales à travers des enquêtes de terrain qu'on mène soit dans le cadre de projets culturels, sous forme de résidence, soit plutôt sur des dynamiques militantes. Et du coup, on essaye de mêler les questions de lutte, d'éduque pop, les enjeux artistiques et puis de réattachement au territoire par ces approches biorégionales. La première expérience, c'est une résidence qu'on a menée donc, avec le collectif Hydromonde en pays d'Uzès, mais elle en parlait un peu ce matin. C'était une résidence de recherche-création qu'on a fait dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le Parlement des liens. Donc le pays d'Uzès, c'était à l'échelle d'une communauté de communes dans le Gard. Ce qu'on essayait de faire, c'était de mener une enquête biorégionale du point de vue des eaux sur cette communauté de communes. Donc la première question, c'était qu'est-ce que c'est que mener une enquête biorégionale? Qu'est-ce que c'est de se mettre du point de vue des eaux? Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'était pendant plusieurs mois aller à la rencontre de tous les acteurs, actrices du territoire qui bossent sur ce sujet de l'eau, à la fois les acteurs techniques, mais aussi certains habitants, habitantes qui avaient des savoirs vernaculaires sur ces sujets-là, et de s'imprégner de toutes ces strates de l'eau. Et on s'est rendu compte donc, au fur et à mesure de notre enquête que la question de l'eau, c'est comme tout plein de sujets dans notre société, c'est vraiment c'est sectorisé entre l'eau potable, l'eau et les rivières, l'eau et l'agriculture. C'est pas du tout les mêmes personnes qui s'en occupent, et le porter à connaissance pour les habitants d'un territoire de ces sujets, il est extrêmement minime, quoi. Donc c'est très difficile de s'approprier cette question. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de croiser un peu toutes ces données, toutes ces infos qu'on a pu récolter en allant à la rencontre de personnes qui avaient des savoirs sur ces sujets, et de produire une petite expo où la question de la représentation était assez importante, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en place des visualisations où on pouvait comprendre en quelques dessins d'ordre un peu général, comment est-ce que l'eau fonctionnait sur le territoire, comment est-ce que l'habitat il se reliait à l'eau, comment est-ce que les questions agricoles elles se mêlaient à tout ça, et de faire voyager cette expo dans le cadre d'un petit festival qu'on a mené avec d'autres personnes sur le territoire qui s'appelait la Fête des Lavoirs. Donc on a restitué notre enquête en allant dans plusieurs petits lavoirs dans le territoire, dans différents petits villages. Et donc on montrait notre expo, on faisait une espèce de procession depuis la mairie jusqu'au lavoir, pour aussi retrouver des formes de rituels, des formes de réattachement à cette question de l'eau, pour sortir justement un peu de la technique, quoi, et de rendre tout un petit peu festif. Et du coup, ce que ça produit, en tout cas en termes de modestement, mais en tout cas en termes de moments partagés dans ces lavoirs avec les gens, c'est vraiment déjà le partage des connaissances, le partage des histoires aussi sur cette question de l'eau, à travers différentes générations, des gens qui étaient élus dans les mairies, des gens qui, ont un puits chez eux et ont un truc à dire là-dessus. Enfin voilà, à petite échelle, ça a créé. En tout cas, ça nous a permis de mettre un petit pied dans qu'est-ce que ça pourrait être une culture aussi de bassin versant, quoi, une culture de l'eau sur un territoire localisé où on parle ensemble de commencer dans notre village, de comment ça se relie.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Il est 20h58, bientôt 21h. Vous êtes donc sur l'arpentaire de l'émission Zoom Écologie. Et tout de suite, on écoute Água de Beber, donc une chanson d'un des fondateurs de la bossa nova brésilienne, Antonio Carlos Jobim. Donc c'est une chanson qui parle d'amour et qui nous parle par métaphore de la subsistance et de nourriture émotionnelle. Il est peut-être temps de parler des bassins versants de nos cœurs. En attendant, on écoute À boire camarade de Antonio Carlos Jobim.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patela da badaba, tibatunda, patela da badaba, tibatunda. Entrei pras contas.
C'était Agua de Beber et tout de suite la deuxième partie de l'émission Arpentaire avec une création sonore des rencontres biorégionales du 20 et 21 janvier dernier.
Lutte locale, espérance globale, c'était le nom de cet événement qu'on a choisi ensemble. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte, quand j'ai vu l'affiche et le truc près, je me suis dit, il manque un truc, et je vais vous le dire dans le livre, ça sera dit de mon intervention, c'est résistance régionale, qui pour moi manque dans le titre de cet événement de ce week-end. Pourquoi? Parce que les luttes locales, espérance globale, en fait, c'était aussi un clin d'œil au slogan intermondialiste, à la vision intermondialiste que les luttes locales, si elles se fédèrent toutes entre elles, elles peuvent former un intermondialisme, un autre mondialisme. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui ont participé à ce mouvement dans les années 90 et dans les années 2000, qui a principalement consisté à aller au contre-sommet des grands événements mondialistes. Donc, et le constat quand même qu'on peut faire aujourd'hui en 2024, maintenant, là, c'est que ce mouvement, il a certainement semé plein de choses, mais il a quand même relativement échoué au vu du désastre dans lequel on est actuellement. Il a un petit peu échoué. Et je pense qu'il a notamment un petit peu échoué parce qu'il n'y avait pas assez de pensée régionale, peut-être, dedans, et trop de local et de global, et ce grand écart entre le local et le global, pour moi, c'est un problème, parce que l'enjeu du biorégionalisme, je l'ai entendu un peu hier, c'est d'articuler les échelles, c'est de penser des échelles qui sont intelligentes pour faire se lier les gens entre eux, pour faire du réseau face au capitalisme qui, lui, est extrêmement bien, et l'impérialisme qui sont extrêmement bien mis en réseau. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les régions, c'est le capitalisme qui les pense très bien. Et ça sera aussi un point important dans mon intervention. C'est pour ça qu'il faut résister régionalement, parce que le capitalisme et l'impérialisme sont organisés régionalement. S'il n'y a pas un pouvoir, un contrôle sur les populations, c'est à des échelles régionales que ça s'organise, c'est-à-dire par des formes de baronnie, par des formes d'organisation de pouvoir qui sont liées à des hiérarchies ancrées sur les territoires de proche en proche, en fait, le capitalisme, il ne tient pas.
Parce qu'il existe aujourd'hui des formes biorégionales qui sont constituées à partir des interstices qu'on peut relier avec une voiture entre différents écolieux, différentes mairies communalistes qui vont être sensibles à la question de régionale, et puis des fermes, des ménages, en fait, et donc tout ça, ça peut former des formes de biorégion. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'État, ça s'attaque à la face immergée de l'iceberg de luttes qui veulent précisément des terres qui sont proches les unes des autres. Et donc là, on est face à l'interdit majeur, et là, l'État met toutes ses forces de police possibles. Donc ça, c'est je pense, le levier foncier de la terre non interstitielle et non disséminée, il est majeur, et ça fait vraiment partie des manières dont l'État saccage et interdit, en fait, la lutte biorégionale.
Comment vont nos luttes aujourd'hui? Comment elles galèrent? On doit avouer que l'année dernière, ça a quand même... On a eu beau avoir été vaillants dans les rues, dans les champs. On s'en est pris plein la gueule, mais on n'a franchement pas gagné grand-chose. Voilà. Ça a été quand même une année assez violente. Moi, personnellement, j'ai vécu dans ma chair à plusieurs reprises, et c'était pas cool. J'ai encore l'émotion dans ma voix qui monte dans ma voix quand je pense à toutes les images de violence que j'ai pu vivre l'année dernière. Donc, le problème pour moi principal, et ce qui fait qu'on n'arrive pas, c'est qu'on arrive à faire un peu du spectacle. Mais pour moi, les deux plus visibles, c'est la France insoumise et les soulèvements de la terre. On est sur un fonctionnement vertical et qui est ancré sur une logique locale nationale, là où pour moi, il faudrait défendre beaucoup plus des formes d'organisation et de résistance régionale, continentale.
Cette répression-là, elle touche aussi des corps de métier. Et ça, c'est beaucoup plus silencieux. C'est des formes de répression administrative qui là, s'attaquent à un autre élément fondamental d'un territoire qu'on pourrait qualifier de paysan, c'est la chaîne des paysans artisans, si on repart historiquement. Mais il y a tout simplement la chaîne des métiers qui permet de vivre avec la parcelle d'à côté ou l'atelier d'à côté. Ben là, typiquement, on a des savoirs qui se sont spécialisés, des savoirs aussi genrés, qui ont été maxi-genrés. C'est-à-dire que je pense à un savoir tout simple, qui est le savoir ménager, qui est ni plus ni moins le savoir du territoire proche, puisque quand on s'occupe des matières et de leur distribution en fait, dans un espace, dans un rayon proche, puisque le travail ménager domestique est fondé sur cette capacité-là, de voir qui a besoin de quoi au bon moment, avec quelle matière, en quelle saison, et avec ce qu'il est possible de faire à ce moment-là, ben, ce savoir-là, c'est méga genré. Vous vous trouvez avec des hommes happés par l'exode rural et l'industrialisation, ou des métiers à talent, comme on dit, hyper spécialisés, ingénieurs, avocats, agronomes, urbanistes, etc. Et puis de l'autre côté, un genre qui méga genré, qui sont ces femmes à qui on va expliquer, vous allez devoir vous occuper de ce territoire très proche, mettre les mains dans la matière, et puis il y a surtout des hommes qui vont être appelés pour travailler assez loin, et qui donc dans leur voiture ne peuvent pas veiller à cette veille du territoire, et donc ils font biorégion à leur manière, mais une biorégion complètement terrassée là.
La révolution industrielle, souvent elle représente une révolution urbaine, évidemment. Sauf que cette révolution industrielle, elle en fait, suppose une première, en fait, qui est la révolution, une transformation radicale, une destruction, on peut même dire, des sociétés et des territoires paysans. Et on a toujours cette idée, en fait, que les campagnes, elles n'ont pas tellement bougé. Et il n'y a rien de plus absurde, en fait, et plus idiot comme idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la destruction des sociétés paysannes, elle est juste monumentale. Ça veut dire qu'il faut considérer que un des éléments clés, en fait, de subsistance des sociétés paysannes, c'est quoi? C'est la haie. Donc, c'est là, en fait, sur 2 siècles, on a arraché 2 millions de kilomètres linéaires. Donc, c'est quand même pas rien. Vous rajoutez, vous prenez la gueule de la France aujourd'hui, vous rajoutez 2 millions de kilomètres de haie. Ça change un peu tout.
Et donc, ce travail de recréer une attention territorialisée qui redistribue le travail de veille du proche, ça s'appelle du travail de subsistance qu'il va falloir réinventer dans un territoire absolument dépeuplé et des familles nucléaires extrêmement habituées à déléguer le travail de subsistance à des machines tout d'abord, mais surtout à des ouvriers et des ouvrières qui, à l'autre bout de la planète, accomplissent un travail de montage, d'assemblage, d'extraction des matières nécessaires pour fabriquer du prêt à poser, du prêt à manger, qui ensuite nous revient dans nos assiettes et nous permet de libérer du temps.
Réinventer la manière d'afficher les territoires, il faut au moins prendre en compte, à mon avis, plusieurs spécificités, plusieurs choses. La première chose, c'est quoi? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça veut dire que les territoires, en fait, ils ont été détruits. Il n'y a pas de retour. On ne peut pas redevenir breton, on ne peut pas redevenir languedocien, etc. Ces territoires-là, en fait, ils ont été complètement redécoupés en zones fonctionnelles, en fait, avec encore une fois des zones industrielles, qu'elles soient agricoles ou pas, avec des zones qui sont patrimonialisées, et je vais y revenir, mais les régionalismes qui s'inventent précisément, en fait, dans le cadre de cette destruction des territoires par l'industrie, ces C'est à ce moment-là qu'on les invente, fin 18e, etc., le folklore, tout ce truc-là.
Mais la question qui se pose, parce qu'il a été beaucoup question d'autochtonie, j'ai du mal à prononcer le mot, même, des riverains. Donc comment on fait sur ce triangle de Gonesse, sur ce plateau de Saclay, où les habitants et les paysans ont été expulsés, et depuis des dizaines d'années? Comment on fait quand il n'y a plus d'autochtones ou plus de personnes quasiment qui se sentent riverains?
Et quel est l'intérêt du biorégionalisme dans tout ça? Et bien c'est justement de faire vivre une alternative à la région mise en réseau pour faire fonctionner l'économie, le business individuel. Voilà. Et donc du coup, l'intérêt du biorégionalisme dans tout ça, c'est que c'est un super outil pour créer des récits alternatifs depuis nos territoires, depuis nos régions. Là, c'est le concept de biorégion, il me permet tout de suite de rentrer dans cette boîte imaginaire et surtout de comprendre comment, en fait, le système industriel a transformé les régions naturelles et pour détourner leur mode de fonctionnement naturel. Et notamment, bon, là, c'est les bassins versants qui sont le super concept. En fait, le bassin versant, c'est pas un concept autochtone, c'est vraiment un concept d'ingénieur. On a besoin du concept de bassin versant parce qu'on a besoin de comprendre comment l'eau s'écoule pour mieux la détourner. Donc en fait, l'usage du concept de bassin versant, pour moi, il permet de penser contre le système. C'est parce que le système a été aménagé en pensée en bassin versant, ou même pour subvertir le concept de bassin versant. À Marseille, il n'y a pas d'eau sans l'eau de la Durance qui traverse dans un canal et sous la montagne de 100 km avant d'arriver à Marseille. C'est un exemple pour dire que pour moi, le concept de biorégion, là où il m'intéresse, c'est quand il me permet justement de comprendre la fabrique au niveau des infrastructures. En tout cas, moi, c'est ça qui me nourrit. Ça me donne envie de comprendre. Quand j'ai commencé à comprendre ça, je suis devenu fou. Et depuis, j'arrive pas. Je suis pris dans une frénésie où j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Partout où je me promène, j'essaye de voir passe par où les tuyaux. Et en fait, quand on rentre dans ce délire-là, tout de suite, on est en train de se battre contre le système parce qu'on montre, en fait, qu'est-ce qui est possible à côté de lui et comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. Deuxième angle régional qui me paraît vachement important, c'est, j'en ai dit un mot déjà, c'est le pouvoir économique. Le pouvoir économique, donc le business as usual, ce que je disais, il est organisé à des échelles régionales. Les échelles régionales, qu'est-ce qu'elles font? Elles managent la corruption, elles organisent des systèmes de corruption, c'est-à-dire de détournement de toutes les règles qui sont établies par le système lui-même. Les dirigeants régionaux et les capitalistes régionaux, ils ont une grande... Et c'est ça leur métier, en fait, c'est de contourner les règles. C'est de faire des billes, d'échanger du foncier. Ah, ben, t'as besoin de cette parcelle-là pour faire un entrepôt logistique, alors on va l'échanger avec celle-là, on va la faire passer en terre agricole, on va la faire passer en terre urbanisée, et tous ces trucs-là, c'est là qu'il se passe vraiment la fabrique. Et nous, en fait, le problème qu'on a dans les luttes locales, c'est que le premier truc qu'on fait, c'est qu'on voit un projet, il est pas bien ce projet, alors on y va plutôt comme des gros courants, là, on sort avec nos pancartes, nanana, on en veut pas, tralala. Mais après, du coup, peut-être, on va essayer en justice, parce qu'on va s'armer de grands justiciers qui savent faire de la justice. Peut-être que si on a de la chance, on va gagner, parce que vraiment, les politiques vont dire oui, c'est vrai, vous avez raison, on n'aurait pas dû, désolé. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont foutre la sortie avec plus loin. Et puis, ça continue. Et en fait, on ne bloque de rien.
Donc, moi, je suis très impliquée dans la lutte pour les terres de Gonesse. Un peu pour, je te réponds. Ouais, on n'est peut-être pas bon, mais on a réussi un truc à Gonesse. À faire trébucher un projet qui, il y a 4 ans encore, visait à construire un centre commercial géant, 500 boutiques, 2700 chambres d'hôtel, une piste de ski artificielle, comme à Dubaï. Ça, c'était il y a 4 ans, le président de la République, la présidente de la région et de France, les élus locaux proposaient encore ce projet. On a réussi à faire annuler ce projet. Alors, il y a plein d'analyses aussi sur comment on désarme un projet comme ça, comment on fait trébucher l'État, la région, les élus locaux. Moi, mon analyse, c'est qu'on a, eu la force des faibles. Et la seule force qu'on a, c'est d'occuper. Donc, on a cultivé une parcelle pendant plusieurs saisons, dont on a été expulsé. C'est d'alerter. Localement, régionalement, nationalement, internationalement. Et moi, mon analyse, mais peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'on a réussi à obtenir ce qu'on appelle en communication une atteinte à la réputation.
La réputation du groupe Auchan, enfin de la famille Mullier, qui portait ce projet, qui était un projet privé de 3 milliards 100 millions d'euros, mais défendu par l'État avec constance. Il a été imaginé par Nicolas Sarkozy à l'issue d'une discussion avec le PDG d'Auchan, puis défendu par François Hollande, puis défendu par Emmanuel Macron quand il était à Bercy, qui s'en vantait. L'atteinte à la réputation devient trop forte. Et ça, c'est aussi grâce aux amis de Notre-Dame-des-Landes, la peur du bourbier, la peur de l'enlisement. Et c'est un endroit où vivent les gens les plus pauvres d'Île-de-France, parce que on est exposé au bruit nuit et jour. Il n'y a pas de couvre-feu. Tout ça, c'est issu de négociations. FedEx a obtenu du gouvernement qui n'est pas de couvre-feu. Donc les gens, ils vivent dans un bruit continu. Donc ça, je pense que c'est quand même intéressant, cette arme des faibles, c'est quand même d'exposer tous ces projets fous. Alors il y en a beaucoup, vous direz, et celui-là était particulièrement fou. Le gouvernement a décidé de maintenir la ligne de métro, qui donc ne doit plus rien desservir. Parce que le terminal 4 de Roissy a été annulé, Europa City a été annulé, mais le gouvernement, au moment où il a annoncé, c'était Elisabeth Borne à l'époque, a annoncé l'annulation, donc en novembre 2019, de ce mastodonte commercial. Elle a annoncé dans un même élan le maintien de la ligne de métro. Donc là, on peut être encore plus choqué, parce que là, c'est de l'argent public, notre argent, qui va aller pour on ne sait pas quoi. Donc là, on a affaire à ce qu'on peut appeler... Et un sociologue des prises de décision, il appelle ça les erreurs persistantes et radicales. Persistantes parce que ça continue, et radicales parce que les discours officiels nous disent qu'il faut sauver les terres agricoles, le zéro artificialisation nette, la souveraineté alimentaire, et dans les faits, on fait le contraire, avec de l'argent public. La ligne 17 Nord et la ligne 18 Ouest, d'après la Cour des comptes, c'est un risque d'endettement perpétuel. Donc c'est la Cour des comptes, hein, c'est pas les collectifs mobilisés. C'est à peu près 9 milliards d'euros d'argent public. On en fait beaucoup des choses avec 9 milliards d'euros. Pour justifier sur le triangle de Venesse la construction de ce métro, annonce la construction d'un lycée tourné vers l'agriculture, il faut le faire, et un internat dans une zone où l'administration pénitentiaire a refusé de mettre des détenus parce qu'il y a trop de bruit. Ça me fait penser à la phrase de Mark Twain, je ne sais pas si vous connaissez. Pour un homme armé d'un marteau, tout ressemble à un clou.
Alors que faire par rapport à ça? Comment est-ce que maintenant on peut vraiment travailler à ça? Et bien, c'est là où le concept de région il ne suffit pas. Il y en a d'autres pour justement s'armer, ou peut-être pour s'armer pour mieux désarmer l'adversaire.
C'est les féministes en fait, éco-féministes, qui vont rétablir en tout cas le paysage complet du problème, qui fait qu'en bout de chaîne, il faut toujours de la subsistance, et que le capitalisme, avec sa circulation invraisemblable, a permis des localisations de travail de subsistance dont nous récupérons les fruits par le temps libéré que nous avons. Et donc, une fois qu'on a fait ce qu'on a posé ce constat, comment on rétablit en fait les cycles de subsistance alors que les territoires ont été morcelés? Les foyers qu'on a sont particulièrement, je dirais, désertifiés. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus désertique qu'un plan de travail mélaminé dans une cuisine équipée. J'ai un peu de mal à voir là quelque chose qui pourrait ressembler à de la matière qui se renouvelle. Je vois plutôt un régime de propreté aseptisé. Et donc, comment dans des biorégions, comme on l'a dit, sans chaîne de paysans, artisans en capacité et d'avoir des savoirs manipulaires et de réparer les machines ajustées à d'autres mains et pas standardisées, et de connaître exactement à peu près les besoins d'un milieu de vie. Comment on fait? C'est assez désespérant, mais là je trouve que là encore l'écoféminisme nous aide un grand recours. Françoise de Bonne, elle démantèle, elle sabote, elle imagine la contre-violence.
Il faut désarmer, il faut démanteler, il faut rentrer dans les logiques, et donc si
Pour moi, il n'y aura pas de bio-région si on ne demandait pas.
Elle dit, bah, le féminisme ou la mort, c'est-à-dire, oui, on peut s'appuyer sur cette, le savoir des bonnes femmes qui n'a pas encore été complètement restituré par le capitalisme pour rechanger l'intégralité, pour imaginer faire basculer si ces femmes s'unissent entre elles pour dire, oui, là... les savoir-faire du proche, repartager le travail de subsistance, relocaliser les énergies. De toute manière, c'est ce qu'on déjà on nous a cantonné, on a appris à le faire. Elle renverse le stigmate pour en faire une puissance et une force. Donc ça, je pense que 50 ans plus tard, c'est compliqué. Mais pourquoi pas?
Il s'agit de repenser en fait les territoires qu'on habite. Il faut le faire à partir aussi justement de tout ce qu'on qualifie de nuisible, humain comme non humain. Parce que ces logiques-là, en fait, on peut les appuyer, on peut s'y allier pour, encore une fois, expérimenter, en fait, si vous voulez, de nouvelles formes de territoire. Je crois que, et là, c'est l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, elle défait précisément tous les grands partages qui sont constitutifs de notre société moderne et qui nous gouvernent. Ça veut dire, le premier type de gouvernement, l'opposition entre les espaces humanisés et les espaces naturels, c'est le premier type qui nous dirige, en fait, pour une raison toute simple, c'est quoi? C'est si pendant des siècles, en fait, on pouvait travailler directement les milieux qu'on habitait, s'y procurer de quoi vivre, en fait, hein, aujourd'hui, cette séparation entre la nature d'un côté et les espaces humanisés de l'autre, elle nous rend strictement dépendants. Ensuite, c'est Fabien Schneider qui avait ça, la rivière machine. Ça veut dire ici, pour le dire très simplement, on dépend tous du supermarché.
De l'autre côté, on a Marianne et Véronique Benoît-Tonzen qui, elles, nous disent que c'est dans le sud que ça se passe, c'est dans les pays du sud. Qu'on a une force gigantesque de groupe. Alors elle projette, en tout cas, elle ne s'appuie que sur les femmes, parce qu'elles ne font pas que des hommes tout le temps, donc on va prendre que des groupes de femmes. Et là, il y a encore des savoir-faire de subsistance, il y a encore des. Enfin, il y a des luttes en cours, comme l'exemple d'une lutte où dans les plantations de café, les femmes vont détruire. Les plantations de café, mais elles donnent un florilège, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment une pensée écoféministe non dogmatique, c'est-à-dire que plutôt que de donner un programme, elles donnent une vingtaine en fait, de propositions entre lesquelles on peut piocher de façon située selon l'endroit où on est et l'État aussi des forces en place. Elles donnent d'autres exemples qui consistent notamment à faire de la politique tout en cultivant et tout en ayant dans les mains le savoir-faire de la subsistance. Donc elle ne sépare pas l'agora qui est le lieu où on s'isole pour prendre des décisions, qui est particulièrement sur le logos en fait, de la pratique d'une culture, la culture du tarot, avec en Micronésie des groupes qui ont vraiment réussi à arrêter l'implantation du nucléaire, et tout en maintenant la culture fondamentale du tarot. Et donc elle prend aussi cet exemple iconique hein, pour dire ce que aussi la Kropotkine dit sur la conquête du pain, c'est qu'on ne peut pas faire la révolution si on ne perpétue pas la subsistance. Et donc si on perpétue la subsistance, ça veut dire que les conflits, l'agora, tout ce qui fait l'âme devrait tout être en train de filer, je ne sais pas quoi, un bout de laine, faire la cuisine. Et c'est précisément ce genre de choses qui peut s'opérer dans des luttes comme Notre-Dame-des-Landes ou les soulèvements de la terre, où en fait le travail de montage intellectuel, conceptuel, militant n'est pas séparé du fait d'éplucher les pommes de terre. Et ça, je pense que c'est vraiment typiquement aussi ce que Sylvia Federici dit quand la cuisine ou ménage est point zéro de la révolution, c'est quand on commence à séparer ces deux actions, c'est-à-dire se mettre en état où on ne fait rien de ses mains, en fait, et bien à partir de là, on commence à faire pied, en fait, avec une attention. Bio-régionale, et donc c'est pour moi la vertu principale en fait d'une réflexion écoféministe et féministe, c'est de considérer que la trivialité en fait l'attention constante et les mains occupées font partie intégrante des luttes et que c'est ça qui dessine en fait le futur bio-régional.
Puissant, 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 pu mais je prends la belle chose sur le fond du puits.
Ce qu'on décide est ça là-haut.
Ce qu'on décide est ça là-haut.
Voilà ce qu'on a à leur dire.
Voilà ce qu'on a à leur dire.
Si c'est exprès, c'est salaud.
Si c'est exprès, c'est salaud.
Si ça n'avait pas, c'est encore pire.
Si ça n'avait pas, c'est encore pire. Et le sang puissant, 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 avec le rire et le décibel. Et le sang puissant, 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 pas que le sang sur le fond du puits.
Il est 21h28, l'arpentaire du Zoom Écologie, c'est fini. Et en attendant l'émission Musique Antilles, on écoute, pour boucler la boucle, après le générique de fin évidemment, Agua de Marsos de Antonio Carlos Robim. C'était Louis et Lisa en esprit pour l'Arpentaire. Bye bye tout le monde.
t'écoutes la méga radio, c'est le jingle de la méga radio.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM et c'est Zoom Écologie. Nous étions le week-end dernier, le week-end du 25 et 26 mai, à Gennevilliers pendant tout le week-end pour couvrir la manifestation et l'ensemble des événements organisés par les Soulèvements de la Terre Île-de-France et les différents collectifs qui s'organisent contre l'installation d'une nouvelle plateforme logistique dite Green Dock sur les docks de Gennevilliers et qui serait un énorme projet dont on aura l'occasion de parler. Et donc une émission en deux temps avec d'abord la couverture de cette manifestation à Gennevilliers où on en apprend plus sur le projet Green Dock ainsi que d'autres projets autres auxquels il est reconnecté. Et ensuite, la balade naturaliste qui permet de visiter la zone Natura 2000 qui est juste à côté de ce projet Green Dock. Quelques mots pour dire que cette émission est bien évidemment dédiée à Lucien, qui est notre régisseur et personne qui a tellement apporté à Fréquence Paris Pluriel, à toute la radio, et qui est malheureusement décédé en ce triste mois de mai. Donc voilà, c'est une émission pour Lucien. Eh bien, on écoute le reportage fait à la manif de contre Green Dock.
Vous avez eu normalement entre les mains un joli petit dépliant avec le programme de la journée et puis une description rapide de trois cortèges. Ces trois cortèges, c'est les cortèges du grand cormoran, l'oiseau emblématique des berges de Seine où s'installerait Green Dock. Ce deuxième cortège, c'est le cortège des ronces et le troisième cortège, c'est le cortège des lézards. En fonction de ce qui est écrit sur les tracts, vous allez pouvoir vous positionner dans l'un ou l'autre cortège, sachant que le cortège cormoran, c'est celui qui va ouvrir la manifestation et que ce cortège, il sera plutôt syndical, familial. Chaque cortège sera repérable avec un immense fanion, si on peut juste le lever pour que les gens voient. Et on va se mettre tranquillement en ordre de marche.
Donc on est avec... Antoine, du collectif Green Dock et de l'association Protection Berge de Seine, c'est ça ?
Alors, du collectif Stop Green Dock.
Green Dock, ouais, pardon.
Et effectivement, président de l'association Protection Berge de Seine.
Ok, et donc cette association, si j'ai bonne mémoire, c'est la première asso qui s'est constituée en réaction à ce projet ?
C'est celle qui a débusqué le lièvre, qui a trouvé que l'existence du projet, qui n'avait fait l'objet d'aucune annonce officielle et d'aucune information officielle auprès des citoyens, et qui s'est constituée donc en association autour de ce projet, et qui ensuite a été rejointe par des dizaines d'autres associations qui aujourd'hui forment ce collectif Stop Green Dock qui défile contre ce projet d'entrepôt géant.
Et donc à la base, vous êtes plutôt des naturalistes, des riverains, quelque chose comme ça ?
Alors à la base, l'association Protection Berge de Seine, on est plutôt des riverains. On s'est évidemment intéressé à tous les enjeux autour de l'entrepôt, que ce soit la biodiversité, notamment sur la zone Natura 2000 que l'entrepôt sinistrerait s'il se faisait, donc un enjeu local, mais aussi au niveau des enjeux globaux de la logistique mondialisée, qui est un modèle de développement dont on ne veut plus aujourd'hui parce qu'il est écocidaire. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ce green dock qu'on voulait implanter dans cette zone particulièrement privilégiée de Seine-Saint-Denis, privilégiée au niveau paysager, je veux dire, parce que c'est la boucle nord de Seine et c'est un espace de nature et de détente, c'est pas juste un enjeu local, c'est aussi la conséquence d'un modèle de développement qui est encore aujourd'hui promu et vendu comme étant vertueux, alors qu'en fait il est totalement anti-écolo.
Et quand tu dis un espace de nature et de détente, j'imagine que c'est pas le côté port de Gennevilliers qui est déjà franchement bétonné, c'est la rive d'en face, c'est ça ?
Oui, c'est la rive d'en face, parce que la rive d'en face, elle est boisée, elle est très peu habitée, et c'est un espace de promenade et de loisirs pour les habitants du 93, et ce sont des dizaines de milliers de personnes, notamment issues du milieu populaire, qui en profitent chaque jour. Et le port de Gennevilliers, certes, il y a un port en face, mais c'est un port, vous savez, qui a des textes de cadrage qui lui disent qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi sur les berges de Seine, qu'il doit veiller à l'insertion paysagère des bâtiments qu'il construit sur les berges de Seine. Alors avec Green Dock, évidemment, on est très loin du compte, c'est la Grande Muraille de Chine, qui doit veiller aussi à implanter les activités nocives loin des berges. Et là, évidemment, avec Green Dock et son défilé permanent de camions, on est loin du compte. Et c'est un port aussi qui a signé la charte d'évaluation des ports, qui dit que bah, voilà, tout ça, insertion paysagère, maîtrise de l'environnement, information des publics, ça fait partie de ses exigences. Et le port de Gennevilliers et Haropaport ne remplit aucune de ces exigences aujourd'hui sur le projet Green Dock. C'est un projet qui est présenté de façon très malhonnête par ses promoteurs et avec beaucoup d'opacité pour les citoyens qui cherchent à avoir accès à l'information et notamment aux études d'impact qui nous sont encore aujourd'hui auxquelles l'accès nous est encore aujourd'hui barré.
Ouais, ok, d'accord. Et bon bah là on est au tout début, la manifestation est en train de se mettre en route. Qu'est-ce que vous espérez un peu de cette mobilisation d'aujourd'hui et puis de ce qui va suivre peut-être ?
Alors je vais commencer par répondre sur la question de l'existence du port parce que je voulais terminer ma... voilà. C'est que en fait on sait qu'il y a un port en face mais ce port est situé en zone urbaine, il y a de la nature autour et face à ça bah, le port il a des obligations. On ne peut pas faire n'importe quoi n'importe où. Nous c'est ça le discours qu'on veut tenir aujourd'hui. On n'est pas contre le développement du port, on n'est pas contre le fait que le port renouvelle des entrepôts existants sur les bords de Seine, mais en étant modeste, en étant intégré dans l'environnement de façon harmonieuse afin de respecter le paysage, la biodiversité et de ne pas surcharger la banlieue nord de l'Île-de-France qui est déjà un territoire d'entrepôt qui est déjà la partie la plus polluée de l'Île-de-France avec tous les risques que ça entraîne pour la santé des habitants, de ne pas la surcharger avec un nouveau projet XXL totalement inutile. Il y a 200 000 m² d'entrepôts vides en ce moment où on parle à Gennevilliers et sur le port et on veut encore ajouter 90 000 m². Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et donc là pour répondre à ta question qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Déjà on est déjà très heureux de faire une réunion des luttes parce qu'il faut bien se rendre compte que Green Dock c'est pas juste une lutte locale, c'est pas juste une lutte de voisinage ou sur un enjeu particulier dans un territoire particulier, c'est une lutte beaucoup plus globale parce que les entrepôts géants ça va avec les routes, les nouvelles routes qu'on construit, ça va avec le réseau de poids lourds qui n'arrête pas de faire venir des marchandises de partout dans le monde pour les redispatcher et les livrer sous 24 heures à des consommateurs pressés qui viennent de les commander sur Internet alors que ce sont des denrées non périssables. Bref, c'est tout un modèle de développement, tout un logiciel mental sur ce qui est souhaitable aujourd'hui comme modèle de développement qui est à interroger. Et en fait, on voit que toutes les associations, tous les citoyens qui sont présents aujourd'hui, ils ne veulent plus de ce modèle de développement du monde d'avant, ce modèle de développement du gigantisme, du tout pour l'industrie, du tout pour l'économie. Ça n'est plus possible aujourd'hui, en 2024, avec les enjeux climatiques et environnementaux que l'on vit. Et donc, on est là pour dire qu'on veut un autre modèle. Donc, Green Dock, ça cristallise, je dirais, cet enjeu global.
Antoine, on s'est rencontrés il y a un an, côté Épinay-sur-Seine. Il y avait un pique-nique, justement, pour dénoncer le projet Green Dock. La mobilisation prend de l'ampleur aujourd'hui, un an plus tard.
Bah oui, ça fait drôlement plaisir parce qu'on voit qu'on a réussi à faire grossir cette mobilisation parce que finalement, elle le mérite. Mais vous savez, on n'a pas beaucoup de mérite en un sens parce que, en fait, quiconque découvre le projet Green Dock, quiconque découvre les dimensions de Green Dock, quiconque découvre le nombre de camions que va entraîner Green Dock et quiconque découvre la localisation de Green Dock juste en face d'une zone Natura 2000 qu'il va sinistrer, quiconque découvre tout ça n'a qu'une envie, c'est de se mobiliser contre ce projet complètement aberrant.
Et c'est toujours la question que la banlieue est servante de la capitale, hein, c'est ça. Donc on installe des centres logistiques qui vont servir surtout les Parisiens, quoi.
Bah oui, c'est ça.
Les nuisances pour les banlieusards et puis les profits pour les Parisiens.
C'est ça. Les colis, c'est pour Paris. Les nuisances, c'est pour la Seine-Saint-Denis. La Seigne baignable, c'est pour le centre de Paris, c'est pour l'île de la Cité. Et puis les entrepôts géants fumants avec plein de camions 24 heures sur 24, c'est pour la Seine-Saint-Denis. Alors il y en a marre de cette ségrégation. Et en gros, Green Dock, c'est une